Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible. Christophe Jubien pour vous accueillir, les Témoins de l'Invisible. Ah bah, si vous êtes un auditeur fidèle de Radio Rancel, ce dont je ne doute pas, eh bien vous savez forcément qu'il s'agit d'un magazine consacré à l'étude des phénomènes aériens non identifiés, les pans ou les ovnis, comme vous voulez, hein, objets volants non identifiés. Nous tâchons d'y voir clair depuis ton année déjà, je ne sais pas si nous y avons réussi, c'est un peu à vous de le dire. Toujours est-il que nous allons rejoindre aujourd'hui Michael Vaillant qui depuis 2 mois nous apporte sa précieuse contribution à l'éclaircissement de ce grand mystère des objets volants non identifiés. Michael Vaillant étant scientifique, il est à la fois informaticien et statisticien au Centre National d'Études Spatiales et depuis quelque temps au GEPAN, c'est-à-dire le groupement qui au sein du Centre National d'Études Spatiales s'intéresse à ces phénomènes des pans, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Je vous propose aujourd'hui bien de reprendre le fil de l'interview qu'il nous a accordé gentiment. Et Michael Vaillant revient sans plus tarder sur U-Sphère, un projet qu'il a mené pour son propre compte et qui lui a permis de comprendre notamment le phénomène de ce qu'on appelle les vagues d'OVNI. Vous savez, ce sont eh bien, tout simplement, ces moments de l'histoire depuis à peu près 1947 où eh bien, les gens observent subitement des nuées d'OVNI. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Belgique, souvenez-vous, en 1990. Et U-Sphère avait pour objectif justement d'essayer de comprendre cette fréquence des vagues. Michael Vaillant y est-il parvenu? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite.
Initialement, U-Sphère, c'était aussi un travail de recherche d'abord sur les conditions environnementales d'observation. Ça rejoint quand même le spatial, hein, et là on va aborder cette partie-là. C'est-à-dire, j'ai un observateur, il est quelque part sur la Terre, il voit un phénomène, qu'est-ce que cela raconte par rapport à l'environnement où il l'observe? Il y a un exemple que j'aime bien donner, enfin en tout cas il y a 3-4 figures. Qui vous permettent de systématiser et de catégoriser, j'ai envie de dire, les phénomènes qui sont observés par un témoin. Vous avez soit, il observe un phénomène qui est une émergence de l'environnement, c'est-à-dire que là où il est, autour de lui, il se passe quelque chose de particulier, soit naturel, soit artificiel. Par exemple, vous avez une fête et il y a des lanternes thaïlandaises qui sont lancées. Et en général, c'est un petit cœur de village, c'est pas n'importe où, qui organise souvent des mariages. Et vous êtes à côté, effectivement, d'une salle des fêtes, par exemple. Mais ça peut être aussi un phénomène naturel qui se produit. Alors, bon, on peut tout imaginer, des lueurs sismiques, bien que ce soit rare, mais dans ce cas-là, on va chercher une corrélation environnementale, c'est-à-dire des failles, comme je disais tout à l'heure, des gaz ou des plasmas qui peuvent se produire peut-être plus favorablement aussi dans certains lieux. Voilà. Il y a un deuxième cas de figure, c'est que vous observez un phénomène qui est un phénomène qui n'est pas une émergence locale, mais qui vient d'ailleurs et qui traverse votre environnement. Et deux raisons peuvent l'amener à traverser l'environnement de l'observateur. Soit parce que vous êtes sur, entre guillemets, son chemin, c'est-à-dire que le phénomène n'a aucun intérêt pour l'environnement local, c'est simplement trajectoire qui l'amène là, le hasard. Et soit, et là c'est aussi intéressant, le phénomène vient d'ailleurs, mais il vient dans cet environnement parce qu'il y a une ressource dans l'environnement qui l'intéresse. et quid de la ressource? Pourquoi une ressource? Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Et là, finalement, c'est un peu comme si vous, moi je prends cette image, vous alliez en Thaïlande et la ressource c'est la plage, et le soleil, et il fait beau, et les paysages. Donc il y a des choses qui dans l'environnement, nous intéressent. Et qu'est-ce qui dans l'environnement peut intéresser les phénomènes? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans l'environnement, corrèle avec l'activité de ces phénomènes? Dans deux cas sur trois, on a cette corrélation. La troisième, à la limite, on peut la mettre de côté, c'est simplement le hasard. Mais il y a cette recherche environnementale à faire. Et USFER, c'était un peu ça, avec cette idée, hein, qui est une idée très ancienne, et une observation aussi, c'est qu'il y a des phénomènes qui s'intéressent au nucléaire, visiblement, enfin en tout cas, qui se produisent près de sites nucléaires. On a eu ces cas célèbres de désactivation d'ogives, on a eu des survols de centrales, etc., etc. Donc, est-ce que c'est du, entre guillemets, du lard ou du cochon? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est simplement une rumeur? Est-ce que là aussi, c'est parce qu'on se dit c'est militaire finalement? Donc, ce sont des lieux un peu secrets, des lieux qui sont propices aux fantasmes. Il va y avoir peut-être des choses de cet ordre qui vont se jouer dans la culture et dans la sociologie humaine. Est-ce que c'est ça?
Si ce n'est que les
Ou est-ce que
témoignages tout de même pour les centrales nucléaires émanent parfois de militaires eux-mêmes hein, qui ont été confrontés à.
Absolument, absolument. Oui, mais même si ce sont des militaires, quelque part, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça reste des humains, et on se dit toujours, alors oui, ça, je pense qu'il y a toute une partie de la population, et c'est pour ça qu'on a ce focus, hein, particulièrement sur les aspects nucléaires, c'est que malgré ça, il y a des militaires qui ont osé en parler, il y a des choses qui sont sorties. Donc il y a bien quelque chose peut-être qui se passe autour de ça. Mais ça n'avait jamais été mesuré, on va dire statistiquement, c'est-à-dire de façon indépendante dans l'espace et d'une certaine façon dans le temps. On avait des cas les uns à côté des autres, mais quelle significativité finalement? Avec ce jeu des militaires, encore une fois, qui est toujours compliqué parce que qui dit militaire dit drone, dit surveillance, dit espionnage, dit etc. Donc c'est est-ce que ça pourrait pas être finalement d'autres nations qui viendraient nous observer aussi? Bon, pourquoi pas. Là, l'intérêt finalement de l'exercice c'était de se dire on va essayer de trouver à l'échelle spatiale une forme de corrélation. Mais et quand je dis l'échelle spatiale, à l'échelle d'un pays et pas simplement les centrales nucléaires, toute l'activité nucléaire. Et pour cela, j'ai commencé à travailler sur des données Greenpeace d'ailleurs, qui étaient des données de répartition effectivement des points entre guillemets chauds en France sur toute la filière liée au nucléaire. Mais finalement, bon, j'étais assez frustré moi-même et c'est là où mes compétences entre guillemets s'arrêtent. C'est-à-dire que bon. Je suis plutôt data scientist que statisticien déjà de formation, avec une formation en informatique au passage, mais en management de l'innovation, donc aussi avec cette vision un peu transverse. C'est-à-dire à un moment donné, il faut aller essayer de sortir de son bocal et d'aller chercher des ressources ailleurs. Et c'est là que j'ai frappé la porte d'un laboratoire de mathématiques à Toulouse, spécialisé dans les mathématiques spatiales. C'est un champ de recherche. Qui est un champ assez pointu parce que quand vous avez des distributions, j'ai envie de dire, d'événements sur un territoire, parfois ce n'est pas facile de les corréler avec d'autres distributions qui peuvent être pas simplement ponctuelles, mais qui peuvent être surfaciques ou qui peuvent être sous forme de vecteurs. Par exemple, et c'est ce qu'on a fait, vous voulez regarder la distribution des phénomènes inexpliqués avec celle des cours d'eau. Les cours d'eau, on va les représenter avec des vecteurs. Mettre des mathématiques derrière et mettre entre guillemets poser des paramètres sur les équations et ce qui est acceptable en termes de rapprochement, de corrélation ou ce qui n'est pas acceptable, c'est un vrai travail et un travail scientifique qui est assez pointu. Et USFER aussi dans l'esprit. Finalement, et c'était aussi la philosophie, une philosophie un peu anthropologique qui était de regarder au-delà du nucléaire. C'était de se dire, bon, vous savez, on a cette hypothèse du zoo, c'est-à-dire l'homme serait finalement, l'humanité serait un zoo, et elle serait observée par des civilisations, entre guillemets, extraterrestres, pour lesquelles on ne serions quelque part que des fourmis. Et nous sommes un écosystème dans lequel elles vont éviter d'interagir et elles vont simplement garder une distance prudente d'observateur. Quelque part, ça voudrait dire qu'on n'a pas grand-chose à leur apporter et que on reste une forme de réserve naturelle. Et dans cette hypothèse du zoo, ben, je me suis dit, bon, si on est une réserve naturelle, si on regarde la Terre comme une réserve naturelle et que finalement... Ce qu'il faut regarder aussi, c'est tous ces systèmes complexes qui sont derrière à l'œuvre, qui supportent le vivant et qui supportent l'intelligence. Quels sont ces systèmes qui sont finalement les plus importants pour l'humanité à l'échelle du globe et qui nous permettent, nous, être vivants, d'exister, de supporter la vie. Et finalement, peut-être aussi l'intelligence, d'aboutir à ce que nous sommes, d'une certaine façon, aux civilisations. Et qu'est-ce qui pourrait les remettre en cause de façon dramatique ? Donc on a évidemment le risque nucléaire, mais ce n'est pas le seul risque. Et c'était l'idée du Sphère d'identifier l'ensemble des risques environnementaux. Et on avait, dans ces risques-là, on a aussi le risque chimique, la pollution des sols, qui peut avoir un effet important à l'échelle de dizaines d'années, voire de générations. Et on peut avoir effectivement le risque bactériologique. Alors on en revient au NBC, hein, des militaires, nucléaire, bactériologique, chimique. Celui-là, quelque part, je l'ai mis entre parenthèses, parce que je me suis dit, mais finalement, peut-être le bactériologique, il peut être important quelque part, mais ce n'est pas ce qui va tuer l'humanité sur le globe entier. Ce qu'il faut voir ensuite, ce sont les risques naturels et quels sont les autres risques environnementaux qui peuvent remettre en cause de façon dramatique l'existence à la surface du globe. Et c'est pour ça que je m'étais intéressé en particulier au soleil. Donc on a dans les risques naturels les volcans, on a tous les risques liés à l'atmosphère, on a ces formes de risques naturels, atmosphériques, risques liés à la lithosphère, à l'héliosphère et à l'hydrosphère. Et c'était le sens du sphère. Et on a donc, quand on a commencé à travailler avec le laboratoire de mathématiques, on a essayé de prendre en compte un certain nombre de ces risques en, on va dire, facteurs explicatifs de la distribution des phénomènes, en se disant, bon, ben, s'il y a une corrélation effectivement avec le nucléaire, sans aller chercher trop loin, peut-être qu'effectivement, ne serait-ce que parce qu'il y a des puissances étrangères qui peuvent vouloir réaliser des survols, on va peut-être retrouver plus d'observations autour de ces sites. Donc mettons-les en paramètre explicatif des phénomènes de type D. Mais mettons aussi les sites contaminés. Donc on a des cartes de pollution en France, ça c'était aussi nouveau, en phénomène explicatif. Et puis ensuite, mettons l'activité humaine en particulier. L'activité humaine, c'est d'abord la densité de population. Alors ça paraît tomber sous le sens, hein, mais il faut quand même le rappeler. Là où il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de témoignage. Donc si vous regardez la distribution brute des phénomènes de type D en France, vous allez simplement avoir la distribution de la population. Voilà. Même si effectivement, on a l'impression qu'on observe moins bien dans les grandes villes, vous aurez quand même beaucoup plus d'observations au final dans les grandes villes. Donc quelque part, ce signal, cette distribution des phénomènes inexpliqués, cela revient aussi à les nettoyer, de cette distribution de la densité de population. Et c'est comme si on avait un signal qui était bruité. Il y a le débruité avec cette donnée. On va aussi le débruiter avec la densité d'aéroports. C'est-à-dire que quelque part, là où il y a une activité aéronautique importante, surtout au niveau du sol, on a cherché à l'exclure et à l'éliminer. Et on a aussi essayé de débruter avec les phénomènes de type A. Alors, les phénomènes expliqués. Alors, pourquoi on a mis les phénomènes expliqués dans le modèle? C'est une proposition du laboratoire. C'était très intéressant de le faire parce que finalement, ça donne un référentiel. Et quelque part, ça nous permettait aussi d'exclure, d'une certaine façon, les aspects psychologiques, psychosociaux, locaux. Alors, en deux mots, on peut imaginer que, par exemple, autour des centrales, il y a des gens qui fantasment sur le terrain, ou qu'il y ait des régions où, par exemple, il y a des associations ufologiques extrêmement, j'ai envie de dire, actives et qui ont un impact sur le nombre de témoignages sur une zone du territoire. Bon, du coup, plus de remontées d'observations, de témoignages au niveau des données. Au passage, c'est la base de données du GEPAN qui a été utilisée, qui est intéressante spatialement parce qu'elle permet effectivement d'avoir une homogénéité dans la récupération des témoignages, a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui sera favorisée par rapport à une autre, ça c'est très intéressant. Mais malgré tout, il peut y avoir des régions plus actives ou qui favorisent ces remontées. Et finalement, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un témoigne, il ne sait pas, a priori, dans quelle catégorie son témoignage et son observation va être classé, A, B, C ou D. Et s'il y a des endroits où, quelque part, il y a des gens qui fantasment plus, où il y a des gens qui ont tendance à avoir plus de choses, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au final, ben, ça pourrait faire monter plus les phénomènes de type D, peut-être classés, D, mais certainement aussi, ça va faire monter plus les phénomènes classés de type A. Parce que, on peut espérer que l'enquêteur fasse bien son travail et arrive à comprendre ce qui s'est passé derrière et ce qui s'est joué. Et donc, on devrait retrouver, quelque part, cette corrélation entre les phénomènes de type A et les phénomènes de type D. Voilà. Donc, on a ce modèle qui a pris en compte les phénomènes de type A comme facteur explicatif des phénomènes de type D. Et enfin, on a pris deux aspects aussi environnementaux, on va dire au sens large, dans les explications possibles aux phénomènes de type D. On a pris les zones humides et les forêts. Alors, pourquoi les zones humides et les forêts? Les forêts parce que ce sont des zones naturelles, alors plus ou moins artificialisées, bien sûr, mais on a souvent, et ça c'était un peu de mémoire aussi, ces observations de phénomènes stationnaires, par exemple au-dessus d'arbres. Ça c'est des choses qui arrivent régulièrement, et ça c'est deux bonnes raisons d'essayer de voir s'il y avait quelque chose. Et on a la même chose par rapport aux zones d'eau, et en particulier, alors j'avais dans la tête, et ça c'était quelque chose qui était au niveau du sphère, d'examiner les zones de tourbières ou les zones de réserves naturelles d'eau, qui quelque part permettent d'être des accumulateurs d'informations qui donnent de l'information sur l'environnement local et en particulier sur l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Donc ce sont des zones qui sont assez importantes, on va dire sur le plan écologique, d'une part, et puis d'autre part, là aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on a dans l'histoire souvent des cas d'observation de phénomènes où le phénomène est stationnaire, au-dessus de zones d'eau, ou va venir au-dessus de lacs ou de petites rivières.
Voir plonge dans l'eau, ça arrive aussi.
Voir plonge dans l'eau, absolument. On a tout ça. Et c'est très intéressant. Alors je me suis dit, mettons-les aussi, voyons ce qu'il en sort. Alors ce qu'on appelle les wetlands dans la cartographie, on s'est appuyé sur des bases de données qui étaient là aussi nouvelles et qui sont tout à fait sérieuses, intéressantes et surtout accessibles. C'est la base Corinne qui est la base de répartition, on va dire, de la couverture du sol en France. Et on a injecté, j'ai envie de dire, toutes ces variables dans le modèle et on ne les a pas injectées, on va dire, avec un a priori. C'est-à-dire que, et c'est là aussi l'apport du laboratoire, c'est un modèle avec ce qu'on appelle des covariables, c'est-à-dire qu'elles sont toutes parallélisées, j'ai envie de dire, les unes à côté des autres. Et si l'une doit absorber quelque part plus d'explications qu'une autre, elle le fera, et elle le fera, j'ai envie de dire, compétitivement par rapport aux autres et sans qu'il y ait d'a priori, sans dire on va commencer par exemple les aéroports et puis ensuite on va mettre la densité de population. Non, si la densité de population doit vraiment prendre le pas, on le saura à sa modèle. Et c'est comme ça qu'on a eu ce qu'on appelle des mesures pour la première fois statistiques de ce qu'on appelle des p-values qui ont permis de quantifier la significativité statistique de ces résultats. C'est-à-dire savoir si on a des corrélations finalement qui sont intéressantes ou qui ne sont pas intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la signification de cette valeur P, mais en tout cas, elle est très importante pour des statisticiens, des mathématiciens. C'est ce qu'on appelle des présomptions contre l'hypothèse nulle. Et c'est une valeur entre 0 et 1, cette p-value qui est donnée. Et ce qu'on dit, c'est qu'entre quand on est inférieur à 0,05, on est significatif, généralement, et quand on est inférieur à 0,01, on est très significatif. Voilà. Et dans cette analyse, ce qu'il en ressort, c'est que la distribution des sites de la population est évidemment extrêmement significative, avec un niveau de puissance incroyable, bon, ça, on s'y attendait, mais une fois qu'on a enlevé ça, on a une très bonne significativité aussi avec les sites nucléaires, c'est-à-dire qu'on est on est 100 fois plus significatif que ce qui est nécessaire, et on est aussi, on va dire, 2 fois plus significatif que le très significatif pour les sites chimiques, donc là aussi on est très significatif, et on est relativement significatif pour les sites correspondant à des zones humides. Donc, mais là aussi, c'est un peu moins, donc j'en fais pas forcément état, mais il y avait quand même une significativité intéressante.
J'aimerais qu'on avance un petit peu, excusez-moi, Michael, parce qu'il nous reste plus que 25 minutes. Je voulais, puisqu'on parle de vagues, revenir peut-être, parce que chaque vague, finalement, a son habillage, si j'ose dire, sa couleur, presque sa saveur. Je voulais qu'on revienne sur celle de 1954, dont Aimé Michel avait dit que finalement elle présentait, qu'elle était comme un festival d'absurdité. Là, on est sur une vague qui dure à peu près 2 mois, entre septembre et fin octobre 1954. C'est la France, c'est aussi l'Italie. Et là, on a vraiment, je sais pas, on a l'impression de se retrouver au cœur d'un film de science-fiction avec des rencontres rapprochées, des atterrissages. Et finalement, on se dit que cette vague de 1954, elle a dû, dissuader absolument les scientifiques de s'y intéresser, tellement ça paraissait grotesque, non ?
Oui. Et c'est, je pense que si on en revient à cette hypothèse, effectivement, qui consiste à dire je reste sous le niveau de bruit ambiant, mais tout en presque en me mettant au maximum du niveau de bruit que je puisse réaliser sans que ça devienne une information totalement officielle et acceptable par tous, je pense que le phénomène, effectivement, selon cette hypothèse, joue entre guillemets à ce jeu-là. Effectivement, il y a un côté jeu de théâtre pour moi. C'est un peu dans ce sens-là aussi où je voulais en arriver, c'est-à-dire que quand on a fini cette analyse en spatiale, on retombe sur un ensemble de résidus d'observation qui reste inexpliqué, et il y a une répartition en fait de ce résidu qui correspond à une répartition qui là aussi peut avoir une explication sociologique. Et c'est-à-dire que le phénomène s'est pas mis n'importe où sur le territoire. Éventuellement, il va être sur des zones, et on rejoint à ce moment-là l'idée d'un apprentissage supervisé, des zones où effectivement il y a des populations qui sont moins, entre guillemets, au fait de ce sujet, et qui même, au contraire, en ont un peu peur, et en particulier, il y a ce côté un peu soupe au chou, c'est-à-dire, moi, si je commence à en parler, dans mon milieu, je vais être extrêmement critiqué, et surtout, je ne vais pas en parler, quoi. Donc, je vais garder l'information, je vais la diffuser éventuellement à mes très proches ou à des personnes de confiance. Et c'est aussi pour ça que ça a été très compliqué pendant très longtemps, c'est que ces phénomènes, mais finalement, pour les phénomènes les plus étranges, pour aller les chercher, il faut acquérir la confiance des personnes. Et quand on l'a, et quand on commence à creuser, quand on arrive à bâtir des bases de données à l'échelle comme ça de grandes masses, qu'elles soient temporelles ou spatiales, on se rend compte qu'il y a cette organisation. Et si cette organisation, effectivement, elle est sur le mode de « je vous apprends » entre guillemets qu'il y a une forme d'intelligence, ça interroge. Moi, ça m'a toujours très interrogé ce que tu as dit, ce que vous avez dit là sur l'aspect absurdité a toujours été extrêmement frappant. Et c'est pas tant finalement l'aspect pour moi, et c'est pas une conclusion, mais en tout cas c'est encore une fois une hypothèse. On est dans l'apprentissage. C'est pas l'aspect technologique qui doit être montré à des témoins. On n'est pas sur le plan de regardez, je vais vous donner, je vais vous montrer comment une soucoupe volante ça marche. Il n'y a pas ce genre de cas d'observation, ou alors peut-être des rares contactés, mais tellement à part qu'on ne les met pas dans la masse. Il y a plutôt des manifestations et qui ont ce côté un peu théâtral absurde, qui vont toucher les consciences et qui vont surtout résonner avec des époques, j'ai envie de dire. Par exemple, on a eu à la fin du XXe siècle une vague d'airships.
Oui.
Et puis on a eu ensuite des soucoupes volantes après 47. Et puis après on a eu des robots, des personnages robotiques. Mais on dirait que ce phénomène a toujours collé quelque part, et c'est là aussi où c'est complexe, à la sociologie ou à l'imaginaire collectif en œuvre.
On peut imaginer qu'il puise ces apparitions, la nature de ces apparitions, dans notre propre imaginaire, dans celui du témoin, par exemple.
Absolument. Et alors, si ce n'est du témoin, en tout cas, de son réseau local, et de façon à ce que quelque part, ça amène à réfléchir sur, de façon générale, plus le concept de vie intelligente, vie extraterrestre, même si c'est un peu entre guillemets gros doigt, c'est-à-dire même si on y va de manière très archétypale, et c'est bien l'idée pour moi, mais sans apporter d'informations supplémentaires aux témoins, sans apporter d'informations techniques utiles, c'est simplement sur le plan de la symbolique. Oui. Et c'est là où c'est intéressant.
Suite et fin de l'entretien de Michael Vaillant le mois prochain dans Les Témoins de l'Invisible. Je vous rappelle que Michael Vaillant est un membre éminent du Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. À très bientôt, dans 4 semaines, pour une nouvelle édition des Témoins de l'Invisible.
On a pris le dos d'un gros crocodile pour le sac de ville d'un vieux tableau. Il a dit la vie va changer et tout ce qui était croqué mangeront ce qu'il aime manger. Une mandarine pour la mentaline. Madeleine, jamais de laine. Un passant qui passe, une passerelle. Je crois que c'est un papa passeron. Il a dit à son ami l'hirondelle: grimpe sur mon aile, grimpe sur mon dos. Tu verras, je t'emmènerai dans le village où toi l'aurais des gentils lupins et des fées. Pour la mandaline, et pour Madeleine, un pyjama de laine. Un berger au nez, un peu en trompette. La bergeronnette ne l'a pas trompé. La bergère était un peu malhonnête. Elle s'en allait, les moutons comptaient.